toutes les réponses.
Sur Radio B, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Résonance, l'émission radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales culture et handicap, musique contemporaine. Résonance, une nouvelle émission pour vous et avec vous, pour tendre l'oreille vers ce qui ne s'entend pas, regarder où il ne faut pas ou ce qui ne se voit pas. Aujourd'hui, nous vous invitons une nouvelle fois à franchir la frontière toute proche et à nous accompagner en Suisse voisine, à Genève, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques instants, par téléphone, notre invitée du jour, Teresa Maranzano, chargée de projet au sein de MIRART, MIRART étant un pôle artistique de l'association ASA, Handicap Mental, qui poursuit une mission de soutien aux artistes ayant une déficience intellectuelle. Avec Teresa Maranzano, nous allons évoquer la publication d'un ouvrage passionnant intitulé « La reconnaissance de l'artiste en situation de handicap, rôle et responsabilité », ouvrage réalisé sous la direction de Teresa Maranzano, mais également aussi de Viviane Guerdan et publié par MIRART. Ce livre, comme vous pourrez le voir chez les auditeurs, est issu de différents colloques organisés dans le courant de l'année 2013 et 2014. Et il est donc un outil incontournable pour poursuivre toute démarche visant la reconnaissance des artistes en situation de handicap. Pour sa part, Teresa Maranzano se consacre depuis plusieurs années à l'expression artistique issue du contexte de marginalité sociale dans le but de stimuler dialogue et synergie avec les professionnels de l'art, le public et la culture contemporaine. Elle est historienne de l'art, elle a été chargée de recherche auprès de la collection de l'art brut à Lausanne avant de diriger entre 1999 et 2007 un atelier de peinture dans un asile psychiatrique en Italie. En 2008, elle a réalisé l'exposition Folie Italiane, accompagnée d'un cycle de conférences pour le compte du service des affaires culturelles des hôpitaux universitaires de Genève. Chargée de production par l'association ASA Handicap Mental depuis 2010, Teresa Maranzano est coordinatrice de MIRART.
Mm-hmm.
Résonance. Aujourd'hui, la reconnaissance de l'artiste en situation de handicap, rôle et responsabilité. Alors, nous venons d'entendre Woman at the Door, pièce de Meredith Monk, interprétée par Cathy Geisinger et Alison Sniffing Meredith Monk, Theo Blackman, Chin Gonzalez aux voix, et puis Alison Sniffing également au piano, et John Hollenbeck au mélodica. C'est vrai qu'avec Meredith Monk, nous avons une artiste incomparable de la voix, compositrice, performeur, cinéaste, et elle compte parmi les figures majeures de la scène post-minimaliste américaine. L'œuvre de Meredith Monk s'impose dès le milieu des années 60 par une démarche interdisciplinaire qui développe conjointement l'exploration du son, de la voix, du mouvement corporel et de l'image. Ces techniques de jeu étendu, qui usent de la voix comme d'un instrument, sont l'élément constructif à partir duquel se tisse une nouvelle expérience perceptive. C'est en 1978 qu'elle fonde le Meredith Monk and Vocal Ensemble afin d'enrichir les textures et les formes de ses paysages sonores. Entièrement basée sur des procédés de composition sans écriture, sa musique libère l'énergie et la spontanéité du son au travers des trames harmoniques denses en flux tendu. Woman at the Door, une femme à la porte. Pièce que nous venons d'écouter ensemble nous permet de dire aussi que l'histoire de la porte est une histoire d'ouverture, de fermeture, d'attente, de crainte, de patience, de passage. Toute porte, nous dit également Pascal Dibier dans son ouvrage sur l'ethnologie de la porte, marque cette frontière entre le connu et l'inconnu, l'incertain et l'attrayant, le douteux et le séduisant, le surprenant et l'intolérable, le pire et le merveilleux, la porte est inexorable. Fin de citation. La porte peut donc aussi être la limite qui marque le passage à un autre état. Et ouvrir un livre, c'est aussi tirer une porte. Bonjour Teresa Maranzano.
Bonjour Alain.
J'ouvre la porte donc. Soyez bienvenue dans cette émission. Et effectivement, par rapport à ce que je citais de Pascal Dibier, ouvrir un livre, c'est aussi tirer une porte, pousser la porte, c'est s'affranchir cette marque entre le connu, l'inconnu, le surprenant et l'intolérable. Il y a peut-être un peu de cela avec l'ouvrage que vous publiez à Mirartre et qui s'intitule « La reconnaissance de l'artiste en situation de handicap, rôle et responsabilité ». Teresa Maranzano.
Oui, je vais bien le croire et l'espérer, cher Alain. Je te remercie aussi pour cette merveilleuse musique angélique qu'on a écoutée
Et
ensemble.
oui, de Bénédicte Monk, hein, c'est une très belle, très, c'est une musique très intéressante en tout cas.
Sublime. Mais je tiens néanmoins à rajouter que
Oui.
cet ouvrage est le résultat d'un travail choral,
C'est
pour
ça.
rester sur une thématique
Tout à
musicale.
fait, tout à fait.
C'est-à-dire que, effectivement, c'est un ouvrage qui tire le bilan d'un travail de longue haleine mené par Mirar, qui est donc un projet de l'association ASA Handicap Mental, sur le thème de la reconnaissance de l'artiste en situation de handicap. Un travail de longue haleine qui s'est développé tout d'abord sous forme de colloques.
Oui.
Des colloques qui ont été organisés en 2013 et en 2014, auxquels ont participé toutes les personnes concernées par cette thématique, donc les artistes en primis,
C'est ça.
mais aussi les personnes qui les accompagnent au quotidien, que ce soit les membres de leur famille, les professionnels qui travaillent dans les institutions. Et ensuite, il fallait élargir les
Oui.
champs de la réflexion en abordant des perspectives plus larges, notamment du point de vue éthique
Oui,
et du
tout à
point de
fait.
vue juridique. Les deux choses n'étant pas si éloignées
Que cela,
qu'on puisse
qu'on puisse
l'imaginer.
l'imaginer, absolument.
Mais bien au contraire, voilà, nous espérons avoir montré dans ce livre la complémentarité de ces doubles regards. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur les contributions d'experts dans la matière, comme le regretté professeur Jean-François Malherbe, qui nous a quittés trop tôt, comme le professeur Mathieu Manguini, qui enseigne à l'école d'études sociales de Genève, mais aussi d'Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l'égalité
Tout à
pour les
fait.
personnes handicapées. Donc chacun a effectivement amené une contribution fondamentale pour donner une idée de ces aspects.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire, pour garder encore cette entrée et cette liaison entre la femme à la porte de Meredith Monk et puis l'analyse ethnologique de Pascal Dibier, est-ce que, Teresa Maranzano, on pourrait encore peut-être parler un peu ainsi, justement encore avant d'entrer plus à fond encore dans le contenu de l'ouvrage, que celui qui se présente, et en l'occurrence la personne en situation de handicap, qui se présente aujourd'hui à la porte, doit se conformer à une multiplicité de critères que la société impose finalement à la personne en situation de handicap, et donc lui propose une multiplicité de portes à franchir pour espérer trouver une place dans la société, être accepté dans cet espace commun que devrait être la société.
Tout à fait.
On peut dire ça encore aujourd'hui,
D'ailleurs,
hein?
oui, bah, d'ailleurs, dans ce livre, les témoignages des quatre artistes les disent tout cela très
C'est
bien.
vrai, tout à fait. Ils le disent
Et
très bien, oui, effectivement.
chacun dans sa discipline, qu'il s'agisse de la musique, du théâtre, de la danse ou des arts plastiques, ils sont tous confrontés à des enjeux variés et multiples.
Ouais.
Il faut dire que ces enjeux sont pour la plupart communs à n'importe quel artiste
Tout à fait.
qui souhaite s'affirmer sur la scène artistique. Les personnes handicapées ne sont pas moins redevables par rapport aux artistes professionnels de l'héritage, de leur milieu, de leur environnement, de la manière comment ils sont éduqués, accompagnés tout le long de leur vie, par exemple. Après, il y a effectivement des écarts entre les personnes qui ont la possibilité de fréquenter, de participer, de bénéficier des formations professionnelles et ces personnes qui, elles, n'ont pas accès à ces formations et pour lesquelles il faut justement prévoir des formations autres, adaptées à leurs besoins spécifiques et aussi à leur manière d'être.
C'est
Donc
ça.
des formations qui soient complémentaire
Mmh.
probablement à
Oui.
celle traditionnelle et qui, à notre sens, enrichissent d'ailleurs la pédagogie traditionnelle en matière artistique, parce que ça ouvre effectivement des portes, toujours pour
Voilà,
rester, développer
absolument.
encore ce thème, ça ouvre des portes sur des possibilités que maintenant les formations traditionnelles, avec un certain formatage dont ils
C'est
sont
ça.
toujours porteurs, ont un peu refermé.
Est-ce que c'est pas justement quand on va parler des lieux d'enseignement et quand on parlait des portes à franchir, effectivement, aujourd'hui, le milieu artistique, comme il est conçu, hein, bien évidemment, n'échappe absolument pas hein, à cette organisation et à ces difficultés. Mais en même temps, pour ces lieux d'enseignement, par exemple, est-ce que c'est pas la crainte aussi, la crainte n'est-elle pas que ce nouvel entrant, finalement, arrivant, viennent perturber les fonctionnements établis, les places, les hiérarchies installées, ou la course, on pourrait pousser un peu plus les choses, la course folle et merveilleuse vers le bien-être matériel d'un de ces pays qui se pensent si riches.
Eh bien, je pense que si tel est le cas, ce serait le comble, parce que le propre de l'art, c'est de renverser justement tout ce qui est establishment,
Tout à
n'est-ce pas?
fait.
Donc, je pense que le milieu artistique se doit de mettre en question
C'est
son
ça.
propre mode de fonctionnement, et en cela, en effet, les artistes en situation de handicap, leur manière de travailler, de produire, de s'exposer, de se produire en public, nous montrent, nous permettent aujourd'hui d'élargir les champs de l'art contemporain en ajoutant une valeur ajoutée à ce qui est convenu.
Mais on sent
Donc,
qu'effectivement, il y a des enjeux, en tout cas pour que ce soit dans les arts plastiques, l'art contemporain et très largement les autres
tout
pratiques
à fait.
artistiques, il y a quelque chose qui, de fait, voyant arriver, on va dire, ces nouvelles expressions, perturbe, hein, j'utilisais ce terme-là tout à l'heure, les fonctionnements établis, finalement.
Alors, je l'espère vivement,
Tout à fait,
c'est
et
en
c'est
tout
ça
cas
qui est vraiment
notre
très
but,
intéressant, il y a le
celui
côté
de
subversif,
perturber.
hein.
Mais il faut aussi savoir que nous n'agissons pas en promouvant ces artistes uniquement en perturbateurs,
Bien sûr.
mais aussi en respectant des mandats, des conventions qui sont de l'ordre des politiques et notamment des politiques sociales. Pour vous faire un exemple très pratique, l'Office fédéral de la culture ici en Suisse pose tous les 4 ans un
Ouais.
programme prioritaire sur les pratiques culturelles. Et dans le programme pour la période 2016-2020, un des axes prioritaires est précisément celui d'élargir la participation culturelle dans sa double signification.
Oui.
Accès à la culture existante, donc donner les moyens à toute personne souhaitant écouter un concert, visiter une
C'est ça.
exposition, d'avoir les moyens et les possibilités de le faire, mais aussi de participer en tant que créateur,
C'est
en
ça.
tant qu'acteur culturel à part entière.
Et ça, c'est
Et
très
pour
important,
cela,
effectivement.
alors c'est très important parce que c'est la demande des moyens supplémentaires pour les personnes handicapées, parce que lorsque les étudiants des écoles des beaux-arts, par exemple, pour rester
Oui.
dans les arts plastiques, fréquentent ces établissements, elles bénéficient non pas seulement d'une formation, mais aussi d'un accompagnement très fourni pour se proposer comme proposer leur travail dans la scène artistique. Et bien, les artistes en situation de handicap n'ont pas les moyens de même de faire ce travail. Donc, une fois de plus, il
C'est
faut des
ça.
structures susceptibles de faire la transition entre eux, leur propre travail, les lieux d'exposition, les publics, les médias, les collectionneurs et tout le monde des systèmes de l'art contemporain.
C'est
Ces
déjà un petit peu
moyens
ce
ne
que
sont pas
fait.
encore là. Il
Oui, c'est
faut
ça, c'est
vraiment les
ça.
créer et il faut
C'est ce que fait
effectivement
Mirart, hein,
faire.
quelque part aussi, et pour ça que tout le travail qui est fait dans le cadre de ce pôle artistique est important vis-à-vis de tous les domaines que vous venez d'exposer.
Tout à fait. Mirard l'a fait notamment pour les arts plastiques. Après, on a aussi établi un partenariat solide avec oui. d'autres organismes genevois et on a mis sur pied une association qui gère une biennale des arts inclusifs qui s'appelle Out of the Box, qui nous permet de décliner cette mission aussi sous, dans toutes les autres disciplines, la danse, le théâtre, la musique, le cinéma, etc.
Et là, ça devient un rendez-vous très important d'ailleurs, hein, maintenant.
Et ça prend effectivement de l'ampleur. On était d'ailleurs récemment invité par une journée organisée par l'Office fédéral de la culture. Ouais. On était considéré comme un des 12 projets dans toute la Suisse, best practice en matière justement de participation culturelle. Mais voilà, c'est encore un projet pilote. C'est idéalement un projet pareil qui amène les responsables des lieux, des lieux institutionnels, qui promoteurs de la culture, à découvrir les productions de ces artistes. Bah, nous espérons qu'un jour cela se fasse sans nous.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de projet pilote, mais que ça soit quelque chose de complètement distillé, irrigant, voilà, intégré dans les pratiques des uns et des autres.
Tout à fait.
C'est sûr que le chemin est important, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une question de droit, hein, dans ce que vous avez tout à fait exposé. Et là, on peut, que ce soit en France d'ailleurs ou côté Suisse, justement, je pense qu'au niveau de l'État fédéral comme au niveau de l'État français, il y a une reconnaissance de ces droits d'accès à la culture, de pratique à la culture, d'inciter les lieux d'enseignement et de pratique, les lieux de diffusion, que ce soit le cinéma, toutes les disciplines artistiques. Mais comme vous le disiez très justement, il y a encore une nécessité très importante de mise en place de structures, d'accompagnement, de facilitation, de faire évoluer énormément encore un peu l'ensemble de ces choses, puisqu'on a bien compris que ce soit le milieu artistique, que ce soit le milieu sociétal, il a encore ses hiérarchies, et celui qui est un petit peu entre les fonctionnements, c'est pas encore toujours tout simple pour pouvoir effectivement que tous ces accès se fassent de manière beaucoup plus libre, et que l'expression de cette personne, au même titre que celle des autres, puisse être aussi présente justement dans l'univers artistique, en tout cas le paysage artistique global de chacun de nos territoires.
Tout à fait, c'est encore un travail de longue haleine, effectivement, qui est devant nous et qui doit impliquer, je dirais, toute la société civile. Au fond, la réalisation de ces livres, c'est une première pierre d'un édifice qui est en construction. L'avantage, c'est d'avoir pu mettre clairement des choses noires sur blanc, là où il y avait encore un flou et qui aujourd'hui j'espère être en partie complet, mais il faut effectivement aller de l'avant et poursuivre sur cette voie.
Petite pause musicale, Teresa Maranzano, et on se retrouve tout de suite. Thank you. Résonance, aujourd'hui, la reconnaissance de l'artiste en situation de handicap, rôle et responsabilité. Alors, nous sommes toujours sur Radio B et nous sommes toujours avec Teresa Maranzano, qui est coordinatrice AmiArt, pôle artistique, qui accompagne dans le champ artistique les personnes en déficience intellectuelle. Alors, Teresa Maranzano, je voudrais un petit peu aussi poursuivre notre entretien et approfondir un peu toutes les questions que nous avons commencé de soulever, et on a mesuré déjà toutes les parties que sous-tendent tout ce questionnement et justement tout l'intérêt d'un ouvrage comme celui-ci pour ceux et celles qui s'intéressent à ces questions et qui œuvrent aussi sur le terrain très concrètement. Et je voudrais juste reprendre un petit passage qui reprend un petit peu un certain nombre de problématiques de fond, et il est dit un petit peu ceci notamment: aujourd'hui, les frontières qui séparaient jadis les formes culturelles légitimes des illégitimes s'effondrent. L'offre culturelle et les choix du public témoignent d'une propension à brasser les genres et les catégories, reflet de l'évolution du goût d'une société hyperconnectée, oscillant sans cesse entre culture d'élite, culture populaire et culture alternative. Cette ouverture, qui concerne aussi les arts plastiques, est spécialement profitable aux artistes travaillant en marge des circuits institutionnels. Par exemple, l'art brut et l'art outsider connaissent depuis quelques années une limite croissante dans le milieu de l'art contemporain. Une légitimité croissante dans le milieu d'art contemporain. Mais malgré ce changement de paradigme, les chances qu'un artiste en marge de la société participe de manière active à la vie culturelle demeurent rares. C'est le cas des artistes avec un handicap mental, lesquels, en raison de leur déficience intellectuelle, sont écartés du parcours formatif traditionnel des HES et, par conséquent, du soutien à la carrière fournie par ces écoles. Donc, quel que soit son talent et sa vocation, un artiste en situation de handicap ne peut pas arriver de ses seules forces à se frayer un chemin de reconnaissance. Cela va à l'encontre de notre législation, qui prévoit l'accessibilité et la participation active à l'art et à la culture pour tous. Une réponse politique visant l'égalité des chances consiste à aménager pour ces artistes des lieux de travail, de formation et de promotion adaptés à leurs conditions, susceptibles de professionnaliser leur pratique artistique. Voilà, c'était un petit peu un des passages qui, je trouve, est important, dont il résume un certain nombre de... peut-être la problématique un peu là où elle se trouve aujourd'hui, Teresa Maranzano.
Oui, merci Alain pour la lecture de ce long passage. Effectivement, nous bénéficions dans cette époque précise du monde de l'art d'un intérêt croissant pour ces formes artistiques qui naissent en dehors des chemins battus. C'est-à-dire que autant dans les arts plastiques que dans la musique ou dans la danse, ces artistes créent en transformant quelque part leur déficit en une force, ce soit dans les mouvements, que ce soit dans les sens de l'écoute, de la transposition musicale, que ce soit dans les gestes artistiques aussi, dans les dessins, dans la peinture. Leurs pratiques artistiques sont les reflets de leur univers qui est encore isolés quelque part de la société dans laquelle nous sommes tous d'une manière plus ou moins différente, intégrée. Et donc, cette expression nous parle, nous touche, parce que nous montre effectivement notre société sous un angle inédit,
C'est
ce
ça.
qui est finalement toujours demandé à l'art dans notre société. Donc, effectivement, il y a même dans les arts plastiques un marché grandissant, surtout en France. Il y a des lieux d'exposition institutionnels, traditionnellement liés à l'art contemporain, qui montrent une belle ouverture vers cette forme artistique qui sort justement qui sont un peu extra-institutionnels, et des dialogues de plus en plus riches qui s'instaurent entre ces dérives. Et ça, on peut effectivement les mettre sur les comptes des effets positifs,
C'est
parce
ça.
qu'il y en a aussi peut-être un petit peu
Absolument. Oui, il y en a
de
de
la
toute façon.
mondialisation de notre univers 2.0 dans lequel nous évoluons tous, et qui a fait effectivement que des barrières tombent entre ceux qui étaient auparavant considérés comme culture légitime et ceux qui ne l'étaient pas. Et on est dans un brassage des cultures et dans un chute des tabous et d'idées reçues par rapport à qu'est-ce que l'art doit être, et qui est effectivement profitable à la diffusion de ces artistes, à leur participation active et de reconnaissance dans la vie culturelle.
Alors, est-ce qu'on pourrait même pas dire, par exemple, je garde encore notre, pas simplement métaphore de la porte, mais symbolique aussi de la porte, et que peut-être un projet comme Mirart, et puis élargissons effectivement à ce que nous venons de dire, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques artistiques et le fait que ces pratiques artistiques soient ouvertes, investies progressivement par toutes ces personnes qui se trouvent à la marge, justement, est-ce que c'est pas une manière aussi que ces courants-là, petit à petit, s'engouffrent, cette fois-ci, mais sous la porte ou sous les portes.
Moi, personnellement, j'ai toujours un peu la peine à parler des courants, des typologies artistiques. Je pense que chaque artiste a la chance de rencontrer des homologues, à instaurer des dialogues avec d'autres artistes. Et je suis, voilà, moins emballée par l'étiquetage
Tout à fait,
de ces.
il est même à bannir, si l'on peut dire.
Voilà, donc je pense que le système de l'art contemporain a une manière qui lui est propre d'intégrer et de jeter des formes
Dans les deux sens,
d'art
oui.
dans les deux sens, et qu'il faut composer avec ces mécanismes, ces stratégies. Ce qui est effectivement un discours délicat à partir du moment où on prend la responsabilité de défendre des artistes qui ont peu de capacité de se défendre toutes seules avec leurs propos, de faire entendre leur voix, de savoir se vendre, entre guillemets, sur ces marchés.
Est-ce qu'on pourrait dire, on parlait de l'art contemporain, donc plus art plastique, est-ce que, par exemple, en Suisse, dans ce que vous en avez en connaissance par rapport à toute cette étude de Mirart et cette connaissance très concrète aussi du terrain, est-ce que dans le domaine du spectacle vivant, vous pouvez noter une présence peut-être un petit peu plus grande aujourd'hui dans les programmations habituelles, quelles qu'elles soient, théâtre, festival, en tout cas moments musicaux ou de pratiques vivantes, on commence à. Est-ce que l'ensemble un petit peu de ce réseau laisse un petit peu plus lui aussi la porte ouverte, en tout cas à accueillir ce type de réalisation au sein de ses programmations?
Bah, écoutez, Alain, c'est en tout cas ma perception personnelle, certainement parce que j'ai l'œil
Eh oui.
évidemment attentif à capter dans les programmations des festivals ou des théâtres les propositions qui proposent des artistes en situation de handicap, mais je constate avec un certain bonheur que ces propositions sont de plus en plus nombreuses, qu'il s'agisse du Festival de la Bâtie, de la programmation d'un théâtre comme la Comédie de Genève, et j'en passe, je n'ai pas une
Bien
liste
sûr,
exhaustive avec moi, mais c'est un constat régulier et un signal fort
c'est ça,
qui
c'est
était
un signal
donné
fort.
cette année. En plus, c'était l'attribution du principal prix du théâtre suisse à une compagnie historique de théâtre intégré, la compagnie Le Théâtre Aurore de Zurich, qui est entièrement composé par des personnes avec un handicap mental. Donc, une reconnaissance non pas seulement symbolique,
C'est ça.
extrêmement importante, mais aussi esthétique, parce
Oui,
que
voilà.
ça
Absolument.
légitime, comme on le disait tout à l'heure, ça légitime parfaitement cette présence, cette valeur ajoutée que les artistes avec un handicap mental peuvent amener sur la scène contemporaine, qu'il s'agisse du théâtre, de la danse, ou des arts plastiques ou de la musique.
Alors écoutons, allons dans ce sens, et voici des paroles de résidents du Centre de rééducation professionnelle Chantoiseau à Briançon dans les Hautes-Alpes, qui a mis en musique sous la conduite de Christophe Devecchi, éducateur, et puis pour les paroles de résidents, travaillées dans le cadre d'un atelier théâtre conduit par Valérie Billard.
Ouais gros, nickel le foyer. Il y en a marre des guerres, des attentats, des disputes dans le monde.
Nous,
de la violence et
la
haine.
La tendresse.
Trop de pognon, trop de bastons, trop de bêtises,
pas
de
surprise.
Trop de cauchemars, trop de cafards.
Il y en a marre, il y en a marre.
La tendresse.
Faut tout changer. Dans le bazar, si tout est triste, c'est pas le hasard. Faut tout changer dans le bazar, si tout est triste, c'est pas le hasard. Faut tout changer dans le bazar, si tout est triste, c'est pas le hasard. Faut tout changer dans le bazar, si tout est triste, c'est pas le hasard. Même si ça craint, même si ça craint. Je veux manger des frites, des burgers, des pizzas, des bonbons, des gratins dauphinois, des pastas de la mama, boire du coca toute la journée en pyjama. Je veux dire des gros mots, faire de la moto, conduire une voiture, aller aux toilettes sans les chaussures. Faire des câlins du soir au matin, mettre une cravate très jolie pour aller en boîte de nuit, danser, chanter, se marier, regarder la télé, jouer à la pétanque, braquer une banque et même être une Miss France. Et même être une Miss France.
Résonance sur Radio B, aujourd'hui, la reconnaissance de l'artiste en situation de handicap, rôle et responsabilité, en compagnie de notre invitée, Teresa Maranzano. Voilà, c'était des paroles de résidents, expressions de résidents du centre de rééducation professionnelle Chantoiseau à Briançon dans les Hautes-Alpes, accompagné dans ce travail de recherche musicale par Christophe de Vecchi, éducateur, et puis au niveau de la mise en texte, la recherche de paroles et autres, dans le cadre de l'atelier théâtre conduit par Valérie Billard. Voilà, c'était des paroles Teresa Manzano émanant voilà, de retour, de regard, d'envie de toutes ces personnes, en tout cas vivant dans cet établissement. Donc là aussi, circulation de la parole, l'importance aussi de pouvoir faire que la parole de tous ces, de toutes ces personnes, et d'ailleurs de tout un chacun, et ce média qui est la radio est là aussi pour ça, donner la parole à tous et à chacun est extrêmement important. Et là aussi, on retrouve bien évidemment le fondamental des pratiques artistiques et de la place de ces personnes au sein des pratiques artistiques. Alors, nous avons vu que, si je repasse un peu des choses importantes, Teresa Maranzano. Mmh. On a vu que, bien sûr, question de droit, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, droit fondamental, tout le monde doit pouvoir avoir accès donc à la culture, donc des problèmes d'égalité, hein, on va dire, pour les personnes aussi en situation de handicap mental. On s'est dit aussi qu'il faut aussi des cadres de production adaptés, hein, d'accompagnement.
Mmh. Hein. Mmh,
va se poser aussi, alors on évoquait un petit peu les circuits là, avant la diffusion de cet extrait, la diffusion des œuvres par exemple, la pénétration des réseaux de diffusion, mais ça entraîne aussi comment conserver les œuvres d'ailleurs, qu'elles soient musicales, qu'elles soient arts plastiques et autres, comment valoriser aussi un petit peu toutes ces œuvres, et puis comment ces envies de valorisation, de diffusion, de conservation se confronte aussi bien évidemment à la réalité, et que l'ouvrage est bien évidemment totalement empreint de ça. C'est grâce aussi à des collaborations, à des croisements de réseaux, que tout ça peut aussi s'améliorer et encore prendre plus de place que ce ne l'a encore aujourd'hui.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la question de la conservation est effectivement assez importante,
oui.
Si on parle, par exemple, des arts plastiques, je me suis retrouvée à maintes reprises visiter des institutions où on me montrait les travaux des gens extrêmement talentueux, mais comme aucune structure ne pouvait les accompagner dans un parcours ponctuel, mais aussi sur les longs termes, eh bien, leurs œuvres n'étaient pas conservées, n'étaient pas disponibles, n'étaient pas archivées, ce qui rendait tout à fait impossible tout travail de promotion artistique de ces personnes. Donc, dans un chapitre de notre livre consacré à un document cadre qui est important, à notre sens, c'est un modèle de convention, de collaboration entre les artistes, d'une part, les représentants légaux, et d'autre part, les responsables d'atelier et les institutions qui les représentent. Et dans cette convention sont cités tous les ce qui sont les rôles de chacun, les droits, les devoirs de chacun, comment on fixe effectivement cette notion des droits d'auteur,
tout à fait.
Qu'est-ce qu'on soit en situation de handicap ou pas,
ouais.
Et aussi quels sont les devoirs, par exemple, par rapport à une institution, de conserver, d'archiver, de vraiment respecter les travaux de ces personnes pour qu'ils soient par la suite diffusés dans de bonnes conditions avec les mêmes critères qu'un artiste professionnel.
Et là, Mirart a fait déjà un gros travail, je pense aussi à toutes les fiches que vous avez aussi réalisées. C'est vrai que cet ouvrage amène encore un petit peu plus de précision sur tous les aspects des droits et les rôles et les responsabilités effectivement de chacun. Vous rappeliez les institutions, effectivement il y a tout un vrai questionnement là, accompagner au regard de ces professionnels-là quant au devenir effectivement de ces œuvres, où vous avez raison effectivement de souligner Il y a bien sûr, comme dans toute pratique amateur, tout un foyer, tout un terreau, mais il y a aussi des émergences d'artistes tout à fait pertinents et pour lesquels il faut bien sûr conserver les autres, mais il y aurait un travail spécifique d'accompagnement, de mise en regard, de valorisation. Et là, il y a aussi un rôle de la structure d'accueil, pas uniquement, on vient de le dire, seul, mais elle a quand même un rôle très important aussi à avoir et, pour contribuer aussi à cet accompagnement de la personne et de cette activité de la personne.
Tout à fait. C'est vrai que quand on plonge dans la vie d'une institution, on s'aperçoit le nombre incroyable d'enjeux qu'il y a pour accueillir de manière digne et respectueuse ces personnes, au point qu'elles puissent, de manière à ce qu'elles puissent s'épanouir vraiment dans leur vie quotidienne. Mais parmi ces enjeux, celui de leur expression et de leur participation culturelle sont aujourd'hui tout aussi prioritaires que d'autres. C'est effectivement une question des moyens à se donner, à doter les institutions pour que cela se fasse concrètement. Et Pierre Coucourde, le directeur de la Fondation Clairepoix ici à Genève, le dit très bien dans son interview dans notre livre.
Absolument.
Il exprime bien le souhait que cette institution demeure une boîte à surprises, donc à travers les moyens qui sont donnés, qui puissent se libérer des potentiels puissent se libérer de toutes parts, autant de la part des personnes handicapées, mais aussi des professionnels qui les accompagnent, que des scénarios inédits puissent se révéler. Et c'est cette ouverture, une fois de plus, qu'il faut toujours viser lorsqu'on dirige une institution, je pense. C'est le plus important.
Alors peut-être, nous arrivons un peu à la fin de cet entretien, Teresa Maranzano. Alors je rappellerai que cet ouvrage, on peut le trouver sur le site de Mirart, www.mirart.ch, qu'il peut être, on peut l'acheter, mais aussi on peut le télécharger et gratuitement en format PDF. C'est bien cela, Teresa Maranzano?
Oui,
hein,
c'est tout à fait ça.
Voilà, et donc je ne peux que le recommander à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent approfondir les réflexions que nous avons pu commencer d'aborder ensemble lors de cet entretien. Et puis, bien sûr, pour tous ceux et toutes celles qui sont engagés très fortement sur ces actions. Donc, merci beaucoup, Teresa Maranzano, pour ces précieux éclairages.
Merci à vous. Et puis, nous invitons tous ceux qui nous écoutent à rejoindre notre action, nos réflexions, à contribuer sous toutes les formes possibles.
Merci, tout à fait. On ne peut que aller dans ce sens. À très bientôt.
À bientôt.
Merci,
au revoir. Alain.
Au revoir. Pour l'heure, nous retrouvons maintenant la rubrique de Gérard Bonnefond.
Sera réservée à la musique en Grèce antique en tant qu'activité sociale, culturelle, en tant que traitement de la folie, et nous évoquerons la fonction de l'infirmité. La mythologie grecque est la première entrée pour traiter du sujet. Alors il convient déjà de présenter les muses, garantes de la qualité de la parole poétique, du chant et de la musique. Dans sa Théogonie, Hésiode, Aède, qui vécut du 8e siècle au 7e siècle avant Jésus-Christ, présente la constellation des dieux de l'Olympe où règne Zeus. Évoquons les muses qui naquirent suite à la relation pendant 9 nuits consécutives entre Zeus et Mnemosyne, la déesse de la mémoire, qui accoucha de 9 filles au cœur uni, des tentrices dans leur poitrine, du chant et d'une âme ignorant la tristesse. Qui sont les 9 muses inspiratrices des Aèdes? Calliope symbolise la poésie épique, Erato la poésie lyrique, Euterpe la musique, Terpsichore la danse, Thalie la comédie, Polymnie la pantomime, Melpomène la tragédie, Clio l'histoire et Uranie l'astronomie. Dans tous les cas, chaque muse représente l'ensemble des muses. La muse inspire les aèdes qui sont à la fois des créateurs et des interprètes et qui chantent ou déclament des poèmes, des chants accompagnés de leur lyre, de leur pharynx ou de leur sitar. Sans la muse, pas d'aède, pas plus que de poésie et de musique. Et pour celui qui, imprudent, veut s'affranchir de leur tutelle, la sanction est impitoyable. Dans l'Iliade, Tamiris, la Halde, qui ambitionnait de les surpasser, fut immédiatement puni. Les muses le démunirent de son chant divin et l'aide oublia la sitar. La toute-puissance des muses est repérable dans l'Odyssée, puisque l'aède, Démodocos, qui reçut de la muse le don de la poésie et du chant, fut privé de la vue. La cécité, voulue par la divinité, procure une aura extraordinaire, puisque l'aède, du fond de sa nuit, ressentirait plus que tout autre les émotions, les sentiments et les bruissements du monde. Les muses malmènent les sirènes qui avaient eu l'insolente ambition de rivaliser avec elles lors d'un concours de chant, entreprise insensée qui voit la victoire de leur musique céleste et purificatrice sur le chant voluptueux des sirènes. Les muses inspirent poèmes et musique aux aèdes et accordent un talent musical aux interprètes, les rhapsodes. Divinité, elles se placent en surplomb des mortels. Sur l'hélicon, au sommet, elles entreprennent leur danse, rond irrésistible, portée par leurs jambes graciles. Puis elles partent, disparaissent, drapées dans la brume, et s'acheminent nocturnes, chantant d'une voix merveilleuse. Maintenant, il est grand temps d'établir le rôle d'Apollon, fils de Zeus et de la déesse Lato, frère jumeau d'Artémis, déesse de la chasse. Dans ses représentations sculptées, dessinées, peintes, il est facilement repérable un arc et une flèche, une lyre, une couronne de laurier et l'himation, qui est un vêtement ample. Dieu de la musique et de la poésie, de la lumière, de la médecine, il est le protecteur des neuf muses. Dans sa cinquième pythique, Pindare, poète, mentionne en trois vers le traitement des maladies, puis l'importance de la musique. Lui, des pesantes maladies, les remèdes aux hommes et aux femmes prodigues, il octroya la cithare et donne la muse à qui lui plaît. Le dictionnaire de la mythologie gréco-romaine, Dan Colonia, précise à propos d'Apollon. On le surnomme Alexikakos, celui qui chasse les maux. Il détruit les monstres, il guérit les maladies, il envoie aux incurables une mort douce et rapide, puis dans le domaine musical, créateur d'harmonie, il joue de la lyre ou de la cithare pour accompagner le cœur des muses. Après avoir imaginé le premier de composer cantiques et hymnes, il institue des compétitions poétiques et musicales comme les Jeux pythiques qu'il préside. L'Olympe, organisé autour de Zeus, avec les conflits, les jalousies, les fourberies entre les dieux, forme une entité mythologique qui contribue à structurer la société de la Grèce antique. Apollon, dieu des arts, et les muses influencent les aèdes et les rhapsodes, et ces derniers trouvent auprès de ces figures divines l'inspiration indispensable à l'exercice de leur art. La prochaine fois, je vous parlerai d'Homère, le célèbre aède, auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. À bientôt.
Résonance sur Radio B. Merci Gérard Bonnefond pour cette rubrique sur la musique antique. Alors nous arrivons aujourd'hui maintenant au terme de cette émission qui j'espère vous a passionné avec notre invité du jour, Teresa Maranzano. Cette émission donc a été réalisée avec la précieuse complicité de Gérard Bonnefond, de Simon Deborne à la régie générale, à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le voulez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de votre radio préférée qui est Radio B, www.radio-b.fr. Que cette journée vous soit belle et douce et à bientôt.
Radio B et la Tannerie vous offrent votre place pour les truffries d'hiver. Le